Bonjour à toutes et à tous, il est 13h dans le studio à Radio Ndekeluka, le journal en français Sango, une présentation de Ida Lotin Diko. Ida, bonjour.
Bonjour Jefferson Digaraba et bienvenue à tous dans cette édition. La sous-préfecture de Yalinga dans la Haute-Côte renoue avec la quiétude après plusieurs mois d'insécurité, mais la population déplore le manque d'infrastructures sanitaires et scolaires. Attention, si rien n'est fait, la ville de Kabo dans la préfecture de Lomfafa risque de tomber dans une crise alimentaire. Les produits vivriers sont rares et les prix augmentent. Le maire de la ville tire la sonnette d'alarme. La guerre se poursuit en Ukraine. Des discussions sont prévues aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Des expatriés africains qui fuient l'Ukraine dénoncent qu'ils sont maltraités. Football, poursuite du championnat, retour de la Ligue de Bangui en première et deuxième division. Au programme cet après-midi, JSB et Real Comboni, puis UFCB contre DFC 8.
La sous-préfecture de Yalinga dans la Haute-Côte, longtemps sous contrôle des groupes armés, renoue progressivement avec la sécurité.
Oui, mais si la paix s'installe peu à peu, les habitants sont toujours confrontés au manque d'infrastructures sanitaires et scolaires. Information révélée par la sous-préfecture, par le sous-préfet Honoré Bendo Gegeyuaka à Bria. Il est avec notre correspondant Gasmala Mustapha.
Quand vous n'avez pas d'école, vous avez des écoles sans table banc ou vous avez des écoles sans enseignants. Et quand vous avez des structures de santé sans produits pharmaceutiques, ça c'est déjà un problème. Et prenons par exemple le cas de l'eau. Yalinga n'a pas d'eau potable. Et ce manque d'eau potable, ce manque de ces puits-là, construits par-ci, par-là, à Bria, ces forages-là, Yalinga n'en a même pas un seul. Et à partir de cet effet, Yalinga a toujours des difficultés, de ces maladies diarrhéiques et beaucoup d'autres problèmes. Donc nous allons essayer de faire des plaidoyers à ces ONG-là pour que peut-être ces ONG-là puissent quand même penser à Yalinga dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour que quand même Yalinga se relève et espère à un avenir meilleur.
C'était Honoré Bendo Gegeyaka, sous-préfet de Yalinga.
De la Haute-Côte, nous sommes dans la préfecture de Lomfafa. L'insécurité alimentaire risque de faire des victimes à Kabo.
Selon de sources locales, une demi-cuvette de manioc, aliment de base des Centrafricains, est passée de 1 000 francs à 7 000 francs CFA. Aujourd'hui, la population locale manque de moyens financiers pour se procurer cette denrée. Une situation qui risque de plonger la ville de Kabo dans une famine si rien n'est fait. Abel Akis Mahamat, maire de Kabo, lance un SOS au téléphone avec Igor Descansenapaï.
Ici à Kabo, il y a longtemps qu'on a vécu dans le problème des rébellions et puis la population n'est pas assez pour aller faire les travaux champêtres. Pour cela, l'année passée, les gens n'ont pas cultivé alors que cette année, il y a des famines. Donc, beaucoup de populations ils sont partis en brousse pour chercher quoi manger, mais il n'y a rien. Donc, vraiment, nous sommes dans le distress. Le manioc ici à Kabo, aujourd'hui, c'est 7000 francs le cuvette parce que le manioc transporte depuis Dekwa, depuis Mbré et Bouka. Donc, ce n'est pas le manioc de Kabo. Aujourd'hui, la population, tous, beaucoup, ils sont en brousse pour chercher quoi à manger. Donc, il n'y a rien. Vraiment, nous sommes dans la famine. Autorité, gouvernement, de venir en secours pour assister la population de Kabo pour sortir dans la famine et puis assister. La population doit cultiver elle-même, prendre leur destin.
La ville de Kabo a été longtemps sous l'influence des groupes armés. Les activités agricoles ont été perturbées et pour les raisons sécuritaires, le gouvernement a fermé l'aérodrome de Kabo. Médecins sans frontières, après être victime d'agressions d'hommes armés, a également suspendu ses activités dans la ville depuis la fin du mois de janvier.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekeluka. Eda, la Banque mondiale, augmente son investissement en République centrafricaine.
Elle insiste néanmoins sur des réformes dans plusieurs secteurs de son intervention dans le pays. C'est ce qui ressort de l'évaluation lundi des financements de la Banque mondiale et leur impact en République centrafricaine. Jean-Fernand Kouina a pris part à cette réunion d'évaluation.
Le montant global que la Banque mondiale investit actuellement dans des projets en RCA est de 660 millions de dollars américains, soit plus de 360 milliards de francs CFA. Si le budget de l'État est pauvre en investissement, l'appui de la Banque mondiale est un supplément indispensable. Mais dans la mise en œuvre, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, entre autres, l'incompréhension autour des procédures de la Banque mondiale, source de tensions entre les coordonnateurs des projets et les ministres, le facteur risque dans la conduite de certains projets, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est la capacité du gouvernement à profiter de ces investissements, comme nous l'explique Erwin Doba, ministre des Finances et du Budget.
Nous avons relevé les problèmes qu'il y a sur certains projets dans le cadre de leur mise en œuvre, puisque l'idée principale aujourd'hui, c'est de pouvoir se réorganiser, mobiliser l'ensemble du gouvernement à travers les chefs de département pour une appropriation extrêmement forte sur l'ensemble de ces projets-là, de façon à pouvoir garantir les résultats au niveau de la population.
La Banque mondiale annonce au regard de l'analyse une enveloppe supplémentaire qui passe de 660 à 830 millions de dollars américains, soit de 16 à 20 projets. Mais cela ne se fait pas à n'importe quel prix. Ce financement est conditionné à des réformes comme celle du secteur minier qui suscite beaucoup d'attentes. Abdoulaye Seck, directeur des opérations pour l'Afrique centrale.
Le code minier, nous attendons qu'il soit transparent, qu'il améliore la fiscalité et qu'il améliore les conditions donc de création d'emplois pour les jeunes centrafricains, les jeunes centrafricains, qui était un point important. On a discuté beaucoup de comment les réformes peuvent être mises en œuvre, surtout ce qui concerne les questions de droits de l'homme, comment ces questions-là sont prises en main et que des solutions pérennes sont prises en compte.
Désormais, les résultats appellent les financements. Un nouveau défi pour le gouvernement qui doit adapter les activités liées aux investissements aux réformes tant souhaitées.
À Bangui, les membres du mouvement dénommé Amis de la République ont mobilisé déjà autour du dialogue politique en cours dans le pays.
Ils ont organisé lundi à Bangui une campagne de sensibilisation de la population du 4e arrondissement sur les avantages du dialogue républicain en période de crise. Une initiative pour soutenir les actions du gouvernement pour la paix durable en République centrafricaine. Julio Mbologbe, coordonnateur du mouvement Les Amis de la République, explique le bien fondé de cette activité au micro de Igor Deskinsenapai.
Le projet vient à point nommé parce que les crises politiques et socio-sécuritaires qui ont marqué la République centrafricaine ces dernières années sont des crises de longue durée. Les tensions intercommunautaires ont mis à mal l'unité nationale et le contrat social centrafricain. Aujourd'hui, la volonté manifeste de son excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, de toujours tendre la main aux filles et aux fils du pays dans la tenue de ce dialogue qui, pour nous, représente une dernière chance d'une sortie de crise définitive. Dans un premier temps, nous allons communiquer et sensibiliser les populations à la base sur les enjeux du dialogue républicain, organiser des rencontres ciblées avec les leaders des mouvements et associations, impliquer les populations sur le bien fondé du dialogue républicain, amener les populations à comprendre le rôle que joue le Conseil national de médiation dans le processus du dialogue, présenter le projet aux plus hautes autorités du pays, ainsi que des recommandations assorties des rencontres avec les populations à la base, organiser une grande rencontre de masse pour la restitution des attentes de la population.
Cap sur la ville de Baro dans la Nana Mambéré, le HCR a remis lundi dernier 4 bâtiments scolaires aux autorités éducatives.
La remise officielle a eu lieu à Baraouro. Constant Dolobabou, notre correspondant, était présent.
Ces écoles sont construites à Vouin, à 25 km de Boire, une à Baro et deux à Baboua. Il s'agit d'un bâtiment de 35 mètres sur 8 avec 3 salles de classe et un bureau. Chaque école est dotée de 90 tables bancs. Après la remise du bâtiment aux autorités locales de Vouin, la population pousse un cri de joie. Olivier Fafa Atidia, représentant pays de l'HR, explique les raisons de cet investissement.
Nous ne sommes pas une agence de construction, nous ne sommes pas une agence d'éducation proprement dit. Alors pourquoi nous construisons des salles de classe? C'est parce que nous traitons avec des enfants. Parmi les réfugiés et les personnes déplacées et les rapatriés, il y a un grand nombre de jeunes et d'enfants. Et notre mandat justement, c'est d'assurer la protection de ces enfants et de nous assurer de leur réintégration dans leur communauté.
Pour le sous-préfet de Baoro, Daniel Passinam, cette construction permet de pallier au problème des bâtiments scolaires dans la région.
Mes impressions sont des impressions de satisfaction. Pourquoi? Parce que le système éducatif connaît un problème. Et à Baoro, il y a beaucoup d'enfants qui ne fréquentent pas parce qu'il manque d'infrastructures scolaires. Aujourd'hui, le HCR a bien voulu mettre à disposition justement de l'école sous-préfectorale mixte de Baoro un nouveau bâtiment qui pourrait peut-être aider les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école.
L'inspecteur d'Académie de l'Ouest, Faustin Gbazadi, voit dans cet appui une manière d'améliorer la qualité de l'enseignement.
Le problème des bâtiments, l'insuffisance des structures scolaires constitue l'une des maux qui gangrènent le système éducatif dans la localité. Et si les activités pédagogiques administratives sont fluides, c'est grâce aux efforts consentis par le gouvernement et aux partenaires du système éducatif. La construction de ce bâtiment va permettre aux enseignants de travailler dans des conditions favorables. C'est une manière également d'améliorer la qualité de l'éducation dans la zone académique.
L'inspecteur d'académie de l'Ouest promet envoyer des enseignants qualifiés à l'école de Vouin qui n'en dispose pas. Constant Dolobabou, de retour de Baoro, Radio Ndekeluka.
L'actualité internationale reste dominée par la situation en Ukraine.
Au huitième jour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les troupes russes continuent les frappes et bombardements dans la capitale Kiev et d'autres villes du pays. L'Ukraine a confirmé la prise de Kherson par l'armée russe. Aujourd'hui, les deux pays en conflit pourraient encore discuter. L'ONU confirme plus d'un million de réfugiés ukrainiennes et exige à la Russie de se retirer immédiatement de l'Ukraine. Alors que des milliers de personnes cherchent à quitter l'Ukraine pour se réfugier dans des pays voisins, des Africains semblent particulièrement visés. En plus d'un traitement particulier, nombreux seraient interdits de quitter ce pays en guerre. Patrick Bongui, notre correspondant Europe, a recueilli quelques témoignages.
Vous voyez, mon Dieu, les nôtres qui nous donnent cela, vraiment. Regardez tous ces petits bois qui sont au sol là. Même un enfant et deux enfants, ma mère, ça se rassasie. Nous sommes à mort.
On est à 2 km de la frontière de la Biélorussie. Et nous sommes abandonnés. Depuis qu'on est là, on peut dire qu'il n'y a que les Irakiens, il n'y a que les Sri Lankais qui sortent. Mais il n'y a aucun noir qui a la liberté. Il n'y a aucun noir qui a la liberté. Vous voyez, on est enfermés comme des chiens.
On n'a pas droit à l'assistance juridique dans ce
où
pays.
Où est l'Union africaine?
Dans ce foutu pays.
Les policiers nous ont dit qu'on va nous ramasser les noirs. On va nous jeter en forêt et on va nous verser la bombe. On ne sert à rien. Nous sommes les extraterrestres.
En tout cas, c'est compliqué. Surtout les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants. Mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout. On a fait plus de 4 jours sans rien manger. Moi, je peux l'affirmer. Les militaires qui sont là, ils vous le disent. Vous allez rester ici, vous fuyez la guerre. Restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs.
Sur BBC, la délégation de l'Union européenne au Kenya avait pourtant dénoncé cette information publiée par certains médias. Pour la première fois, la Russie a avancé hier un bilan. 498 soldats russes se sont tués dans cette guerre et plus de 1500 autres blessés. Claire Assamba Denga est là pour la page sport. Claire, bonjour.
Bonjour à vous, Edalo Tindiko. Bonjour à tous.
Du football, le championnat retour de la Ligue de Bangui en première et deuxième division se poursuit au stade Barthélemy Bouganda.
Tout à fait, Eda. À l'instant même, jeunesse sportive de Boeing joue contre Real Comboni, suivi à 15h en première division de la rencontre Université Football Club de Bangui contre le Diplomate Football Club du 8e arrondissement d'FC 8. Hier, en deuxième division, Racing Club du 3e arrondissement a battu Sika Sport 1-0 en première division. A sopété à 8 raisons de Castelfoot 2-1.
La Fédération béninoise de football souhaite changer le nom de son équipe nationale.
Tout à fait, le surnom Les Écureuils du Bénin remonte aux années 1960 et symbolise un petit pays qui cherche à grimper haut. Mais le comité exécutif de la Fédération béninoise de football estime qu'il est temps de changer afin de mieux exprimer les ambitions de l'équipe béninoise.
Et puis Coupe de France, le FC Nantes rejoint Nice en finale après sa victoire hier face à l'AS Monaco.
Effectivement, et d'Alain Nantais ont battu les Monégasques au tir au but 4-2 sur le terrain. Les deux formations étaient à égalité 2-2. Les Nantais ont déjà remporté la Coupe de France à 3 reprises en 8 finales. 18 ans aujourd'hui, ils n'ont plus joué au Stade de France depuis 2004. Le FC Nantes affrontera Nice au Stade de France le 8 mai prochain.
Changeons de discipline, basketball, le tournoi de pré-saison se poursuit au Palais des Sports en masculin et féminin.
À suivre ce soir chez les filles, Nuitec contre Abeille, ensuite Zarascle face à Horizon. Selon Maurice Beina, directeur technique national adjoint de la Fédération centrafricaine de basketball, cette période de rencontre de pré-saison a permis de réorganiser la Ligue de basketball de Bangui. Il répond ainsi, Eda, à ceux qui pensent que le tournoi de pré-saison a trop duré.
Basketball toujours, l'entraîneur camerounais Jean-Claude Nett, futur coach de Jibabé Kajes.
Effectivement, l'ancien entraîneur de différentes catégories d'équipe nationale du Cameroun deviendra le nouveau coach du club Jibabé Kajes. Sa première mission consiste à prendre en charge l'équipe première et la formation des équipes jeunes. C'est ce qu'a indiqué Cyril Damango, président de Jibabé Kajes. Jean-Claude Tep a été coach adjoint du Cameroun.
Jeux paralympiques, les athlètes russes et biélorusses finalement interdits de concourir.
Oui, et la décision prise 24 heures après l'autorisation du Comité international paralympique d'accepter les concurrents russes et biélorusses lors des Jeux de Pékin, l'institution a décidé de faire marche arrière ce jeudi. Les inscriptions de ces athlètes seront refusées, évoque l'organisation dans un communiqué après une réunion du conseil d'administration.
Et c'est la fin de ce journal en français préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez branchés pour la version en sango après cette pause.